Le 18-20 France Inter est ouvert, poussez la porte et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Et c'est avec vous et le journal que ça commence comme d'habitude. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mercredi est en vert, avec deux R.
Pour une radio sans plastique et une planète moins polluée, France Inter s'engage aujourd'hui. Nous nous demandons ce soir comment faire avec les bouteilles d'eau ou de shampoing, comment les recycler. Un très proche d'Emmanuel Macron, accusé de conflit d'intérêts par Anticor, l'association porte plainte contre Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, déjà enlisé dans l'affaire Benalla. Un ancien espion retrouvé mort, plusieurs balle dans le corps près du lac Léman. Règlement de compte entre barbouzes, l'enquête ne fait que commencer. L'affiche de foot ce soir, c'est PSG-Chelsea, quart de finale de la Ligue des Champions, version féminine. Les Parisiennes comptent sur leurs très nombreux supporters. Encore une très belle journée de soleil. Demain, la météo complète à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
Allez, dans l'ordre à 18h15, un jour dans le monde. Nous sommes au Mali ce soir après le massacre de 160 Peuls samedi, la plus lourde des attaques de ces 6 dernières années. Intensification des violences intercommunautaires, djihadistes et contre-terrorisme avec des populations prises au piège. On en parle avec le premier invité du 18-20. Et puis, nous sommes aussi à Bombay, voir comment, là aussi, on essaye de se débarrasser du plastique. Vous verrez que c'est pas si simple. Et au téléphone sonne, donc vous le disiez Amélie tout à l'heure, 19h20, plastique, non merci, j'ai décidé d'arrêter. Journée sans plastique sur France Inter. Et au téléphone sonne, avec vos solutions, vos efforts, vos idées, vos astuces pour éviter le plastique. 01 45 24 7000.
France Inter.
Couvrez-moi ce gobelet que je ne saurais voir.
Le plastique, ça n'a plus rien de fantastique quand il se retrouve à flotter dans les océans par millions de tonnes ou dans les estomacs des baleines et des tortues. France Inter ose le pari aujourd'hui. On se passe du plastique à usage unique et l'on se demande comment faire par exemple avec nos bouteilles d'eau ou de shampoing. La demande des consommateurs pèse de plus en plus sur les grandes marques. Alors Sandy Dauphin, des bouteilles plus vertes, est-ce possible ?
Cette bouteille de liquide vaisselle est en plastique transparent. Elle ressemble à une bouteille standard, sauf que...
Quand on la regarde vraiment de près, le plastique est légèrement gris parce qu'elle intègre du plastique recyclé.
Joséphine Copignot travaille à la direction du marketing chez Renette. Cette marque de produits d'entretien ménager vert fait des emballages neufs avec du vieux. Cela coûte plus cher que d'utiliser du plastique vierge, mais c'est désormais un argument de vente.
Il y a quelques années, mettre des produits en plastique recyclé sur le marché n'était pas forcément perçu positivement. Les gens avaient l'impression qu'on leur vendait quelque chose avec du déchet, avec cette notion négative. Aujourd'hui, du plastique recyclé leur semble une garantie d'éthique.
Et cette bouteille a été conçue pour être 100% recyclable. Seul frein pour la fabriquer, pas toujours facile de trouver le bon plastique recyclé.
Cet emballage-là, il est translucide. Il faut trouver des emballages translucides pour refaire du translucide. Les détergents liquides, c'est des bouteilles noires, des bouteilles rouges. Et donc, il n'y a pas beaucoup de matière translucide ou blanche sur le marché. Et donc, on a du mal à refaire des bouteilles avec.
Toutes les bouteilles plastiques devront contenir 30% de matière recyclée en 2030, objectif d'une nouvelle directive européenne.
Le plastique, non merci. C'est donc notre mot-clé aujourd'hui à l'antenne, sur les réseaux sociaux et sur franceinter.fr. Et comme si le Parlement européen nous avait entendu, eh bien, il vient d'entériner l'interdiction du plastique à usage unique dans l'Union européenne dès 2020. 21. Le président Emmanuel Macron, lui, a changé à propos de la transition énergétique. C'est l'écologiste Pascal Canfin qui l'affirmait ce matin sur Inter, numéro 2 de la liste LREM aux élections européennes, pour expliquer pourquoi il est passé d'Europe Écologie Les Verts à la liste des marcheurs. La Macronie, sous pression, en particulier Alexis Kohler, déjà mis en cause par le Sénat dans l'affaire Benalla, le secrétaire général de l'Élysée, fait l'objet désormais d'une plainte d'Anticor. L'association anticorruption reproche à Alexis Kohler ses liens familiaux avec un armateur italo-suisse, MSC, un groupe qui achète des paquebots au chantier naval de Saint-Nazaire. Or, Cyril Gradiani, bonsoir.
Bonsoir.
Or, ce très proche d'Emmanuel Macron a siégé au conseil d'administration des chantiers.
Et en privé, Alexis Kohler a coutume de dire « ne pas céder, toujours tenir ». Et bien là, il va pouvoir s'appliquer cette maxime. Le secrétaire général de l'Élysée, fragilisé par l'affaire Benalla, est à nouveau dans le viseur d'Anticor qui tente par tous les moyens de l'accrocher à son tableau de chasse. L'association anticorruption accuse cette fois le bras droit d'Emmanuel Macron de faux et usage de faux et d'omission substantielle de ses intérêts. Interrogé lors du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux vole à son secours.
Il a auprès de lui Alexis Kohler depuis le premier jour et la confiance d'Alexis Kohler de la part du président de la République est totale.
C'est à l'arrivée qu'on juge, réplique un habitué du palais de l'Élysée. L'entourage d'Emmanuel Macron a refusé de commenter l'annonce de cette nouvelle plainte. Mais après, l'ex-conseiller Ismaël Emelien, empêtré dans l'affaire Benalla avec notamment l'épisode des bandes de vidéosurveillance, le secrétaire général de l'Élysée, bras droit du président, réputé comme un de ses plus fidèles, continue lui d'être dans la tourmente, lui que l'on annonce pourtant sur le départ en plus depuis plusieurs semaines.
Cyril Gradiani, merci beaucoup. Un autre camouflé pour Emmanuel Macron, le Conseil d'État annule le décret qui nommait Philippe Besson consul de France à Los Angeles. Le décret pris l'été dernier pour nommer l'écrivain un poste de diplomate avait déclenché les critiques tant il ressemblait à une faveur du président envers Philippe Besson. L'auteur a signé l'an dernier un personnage de roman, le récit de la conquête de l'Élysée par Emmanuel Macron. Le gouvernement décrié dans les rangs des fonctionnaires, le projet de loi sur la fonction publique a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Objectif, supprimer 70 000 postes sur tout le quinquennat. Il est contesté ce projet par tous les syndicats. Des manifestations ont eu lieu un peu partout en France. À Paris, ils étaient quelques centaines.
Voilà maintenant, Amélie, une affaire digne des meilleurs romans de John le Carré.
Un ancien agent du renseignement français retrouvé mort, criblé de balles sur un parking en Haute-Savoie. Retrouvé la semaine dernière, son identité, Daniel Forestier, 57 ans, n'est révélée qu'aujourd'hui. Une enquête est ouverte, beaucoup de questions posées, d'autant que cet ancien espion était au cœur d'un projet d'assassinat en France d'un opposant congolais. Bonsoir Stéphane Père.
Bonsoir Amélie.
Alors, s'agit-il d'un règlement de compte entre barbouzes ou d'une simple affaire de droit commun?
Eh bien, l'enquête s'annonce compliquée. On ne peut pas répondre ce soir à cette question. Ce sont les hommes de la police judiciaire de Lyon qui enquêtent sur les faits. À notre connaissance, aucun élément concret ne relie encore cet assassinat au passé de cet homme et aux soupçons plus récents qui pesaient sur lui et que vous avez évoqués. Le corps de Daniel Forestier donc a été retrouvé sur un parking isolé. Pas de témoins, a priori. 5 balles, dont une dans le cœur et une dans la tête. Une forme d'exécution qui fait dire aux enquêteurs que ce serait sûrement l'œuvre de plusieurs tueurs aguerris. Daniel Forestier, il avait 58 ans, il était père de 2 enfants, il avait été 14 ans au service Action de la DGSE, avant de se retirer dans la commune de Lucinge, non loin de là où il a été tué. Localement, il était connu de tous, il écrivait des livres sur son passé dans les services, il a un temps tenu un bar-restaurant et avait même été conseiller municipal, jusqu'à cette fameuse mise en examen en septembre 2018 par la justice. La raison, vous l'avez évoqué, il était suspecté, avec un autre complice, d'avoir préparé un projet d'assassinat contre un important opposant congolais exilé en région parisienne, Ferdinand Baou. C'est un tuyau de la DGSI, les services intérieurs cette fois, qui avait impliqué Daniel Forestier dans cette affaire. Ce soir, Cédric Wissou, l'avocat de Daniel Forestier, contacté par France Inter, réfute les accusations de la justice. Il rappelle qu'il avait demandé la nullité de cette mise en examen. Selon lui, il est beaucoup trop tôt pour relier cette enquête et l'assassinat de son client.
Enquête à suivre. Donc, merci beaucoup, Stéphane Père. Voilà une fonctionnaire qui reconnaît aujourd'hui son échec. La contrôleure générale des prisons, Adeline Hazan, admet dans son rapport annuel qu'en dépit des annonces, des efforts et des discours, la population carcérale atteint encore un niveau inégalé. 71 000 détenus l'an dernier, 71 000 pour 60 000 places. Adeline Hazan estime également que la loi de programmation et de réforme de la justice publiée dimanche dernier au journal officiel ne va pas faire baisser la surpopulation carcérale. Un hôpital lourdement condamné pour la mort d'un patient, le CHU de Rennes, va devoir verser 300 000 euros à la famille d'un malade décédé en 2011 après avoir attrapé une maladie nosocomiale. Il avait été admis pour une transplantation cardiaque. Les experts ont conclu à un diagnostic tardif et à un traitement inadapté. Les précisions à Rennes de Loïc Guélec.
Le 23 juillet 2011, un homme âgé de 51 ans et qui est père de 2 enfants est hospitalisé au CHU de Rennes pour y subir une transplantation cardiaque. Mais 4 jours plus tard, le patient décède d'une pneumonie après avoir été victime d'une infection nosocomiale. Dans leur conclusion, les experts ont évoqué un diagnostic tardif le 25 juillet 2011, en début de matinée. L'état du malade s'est dégradé brutalement en début d'après-midi et le traitement antibiotique n'a été administré que dans la nuit. De plus, il était inadapté, toujours selon les experts. Durant le procès, l'hôpital public avait affirmé n'avoir commis aucune faute, engageant sa responsabilité. Mais le tribunal administratif de Rennes en a décidé autrement, en condamnant l'établissement de santé à verser près de 300 000 euros à la veuve et ses enfants. L'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, est condamné aussi à verser une somme identique. Le CHU a 2 mois maintenant pour faire appel. À Rennes, Loïc Guélec, France Bleu Armorique pour France Inter.
Terminé pour la grippe. Cette année, l'épidémie est finie, annonce l'agence Santé publique France, elle a été responsable d'environ 8800 décès cette année.
Le scénario du feuilleton du Brexit, encore plus compliqué qu'une bonne série télé.
Et personne aujourd'hui ne peut prédire l'épisode final. Les députés britanniques revotent ce soir sur une série d'hypothèses pour remplacer l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Theresa May et rejeté par le Parlement. Parmi les 8 options sur la table, un divorce le 12 avril sans accord, un accord avec une adhésion au marché unique et un arrangement douanier, ou encore une révocation de l'article 50, c'est-à-dire une annulation pure et simple du Brexit. C'est à suivre donc dans les heures à venir. L'Europe qui arrête d'envoyer des bateaux pour sauver les migrants au large de la Libye, incapable de se mettre d'accord sur les lieux de débarquement des exilés secourus. Les États membres ont décidé ce matin de prolonger la mission Sophia de 6 mois, mais sans cette composante navale, sans son aspect essentiel. Donc, les heures à venir, cruciales également en Algérie. Le président Bouteflika est lâché par ses plus fidèles soutiens après le chef d'état-major hier. Aujourd'hui, Ahmed Ouyahia, encore Premier ministre il y a quelques semaines, et son parti, le RND, réclament la démission du Raïs, impotent depuis un AVC en 2013. Ils sont suivis cet après-midi par le FLN, le Front de Libération Nationale, au pouvoir également en Algérie. L'Inde est désormais capable de tirer des missiles jusque dans l'espace. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que son armée avait réussi à détruire un satellite en circulation, une prouesse technologique rare. Annonce très politique aussi, car dans 2 semaines, Sébastien Farcy, l'Inde va voter pour les élections législatives.
C'est un ancien satellite indien hors service, situé à 300 km de la Terre, qui a été abattu par ce missile balistique. C'est un vrai exploit technologique et stratégique. L'Inde prouve ainsi qu'elle peut détruire un tel orbiteur, ce qui est très utile pour se débarrasser de satellites espions ou pour réduire la visibilité des armes de ses ennemis qui fonctionnent grâce aux coordonnées GPS. Seule la Chine, la Russie et les États-Unis maîtrisent pour l'instant cette technique. Mais l'annonce est surtout extrêmement politique. À 2 semaines des législatives, le parti du BJP au pouvoir veut se poser comme le seul capable de défendre le pays contre la Chine et surtout le Pakistan, cet ennemi musulman traditionnel qui est sur toutes les lèvres des membres de cette formation nationaliste hindoue. Ceci encore plus depuis l'attaque de terroristes pakistanais au Cachemire indien le mois dernier. Sécurité, sécurité et sécurité, tel est donc le slogan de la campagne du BJP, et Narendra Modi se présente par cette déclaration solennelle comme le père protecteur de la nation indienne. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
On ne touche pas à l'arbitre. Un footballeur amateur vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Vesoul. Il avait agressé violemment l'arbitre pendant un match après avoir pris 2 cartons jaunes. La peine est supérieure aux réquisitions du parquet. L'homme avait déjà un casier judiciaire bien rempli. 11 condamnations. Du football sur la pelouse, cette fois pour l'affiche du jour. Un quart de finale retour de Ligue des Champions. Côté femmes, les joueuses du PSG reçoivent Chelsea à 19h au stade Jean Bouin à Paris. Au match aller, les Parisiennes ont perdu 2-0. Elle compte donc sur le soutien des 12 000 spectateurs attendus, Bruno Salomon, dans leur stade.
Cette saison, à chaque fois que les joueuses du PSG ont évolué à Jean Bouin, le constat est simple, Paris ne perd pas mieux. Le PSG se régale, s'éclate en termes de buts avec une moyenne de 3 buts marqués par rencontre. Un stade, Jean Bouin, qui plaît beaucoup au groupe d'Olivier Chouafny.
Grand stade, environnement beaucoup plus adapté à un match de haut niveau. Et puis ce 12e homme qui va être unique et énorme.
12 000 personnes sont donc attendues au minimum ce soir. C'est un record cette saison pour un match de football féminin à Paris. Un foot de haut niveau qui attire de plus en plus de monde, comme le constate la capitaine du PSG, Irène Paredes.
C'est bien que tout le monde vienne nous voir, mais c'est vrai que ça change petit à petit. En plus, cette année, il y a la Coupe du Monde, donc c'est bien et tout le monde est engagé un peu avec le football féminin. Ça, il faut le profiter aussi.
Ce soir, Jean Bouin va donc vibrer avec un petit plus non négligeable qui fait déjà trembler Chelsea. Les ultra-parisiens sont attendus en grand nombre pour mettre une énorme ambiance afin d'aider justement les parisiennes à renverser les anglaises.
PSG Chelsea, coup d'envoi à 19h, donc dans moins de 3 quarts d'heure au stade Jean Bouin à Paris pour une qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si on dit Ligue des Championnes dans ces cas-là. C'est à demander, on verra.
Eh ben, nous, on peut décider qu'on dit Ligue des Champions.
À la Ligue des Championnes, exactement. Une autre star, la star du prochain festival d'Avignon, sera un metteur en scène absent. Kirill Serebrennikov a signé à résidence à Moscou, va tenter de monter une pièce à distance, outside, sur un photographe chinois censuré qui a fini par se suicider. Serebrennikov, poursuivi par le pouvoir russe, a déjà créé des pièces à distance récemment, un opéra à Hambourg. Il remet ça à Avignon donc cet été.
Amélie Perrier, merci beaucoup pour le journal. Et à tout de suite, Amélie, dans Un jour dans le monde.
Oui, sous les radars ce soir, des inondations rares en Iran et le pouvoir est mis en cause. On ira également au Mexique qui demande des excuses à l'Espagne pour les abus des conquistadors au XVIe siècle. Et puis un champion de MMA prend sa retraite, il est aussi accusé d'agression sexuelle.
Alors, ce sera autour de 18h37 à tout à l'heure. Ce soir, nous sommes aussi au Mali. Vous verrez aussi que Bombay essaye également de se débarrasser du plastique et c'est pas si simple. Et puis justement, le téléphone sonne, plastique non merci, journée spéciale sur France Inter avec vos solutions pour réduire le plastique dans nos vies, la production, la consommation, vos trucs, vos astuces, vos questionnements à partager avec nos invités. Ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000.
La météo avec Préfond, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfond-retraite.fr.
Et Sébastien Léas, du soleil très généreux encore demain, mais plus variable sur le nord-ouest.
Oui, de nombreuses régions, en particulier de la moitié sud, bénéficieront d'une nouvelle journée ensoleillée du matin au soir, même si quelques grisailles pourront se former en fin de nuit, notamment sur le centre-est. Des côtes de la Manche à l'Anjou, l'ouest parisien et aux Ardennes, les éclaircies seront plus timides, en particulier en matinée, mais la couche nuageuse aura tendance à se morceler et l'après-midi sera plus lumineux. Entre l'Alsace et la Meuse, après une matinée sous le soleil, des nuages vont fleurir dans le ciel, prenant un peu plus de place l'après-midi. Et puis un voile de nuages élevé va aussi un peu atténuer le soleil demain après-midi entre le Massif central, le Loiret, la Bourgogne et les Vosges.
Et sinon, hausse des températures qui se poursuit demain.
Et oui, déjà en hausse cet après-midi, les maximales gagneront encore quelques degrés. Demain, passant quasiment partout au-dessus des valeurs de saison. 14 degrés à Abbeville, Cherbourg et Biarritz, 15 degrés pour Paris, Tours et Metz, 17 degrés à Lorient, à Strasbourg, à Limoges ou encore à Lyon, 18 degrés à Toulouse, Perpignan et Toulon, et même 20 degrés à Nîmes et Agen. En revanche, on attend encore quelques petites gelées cette nuit, comme à Nevers et à Auch, par exemple.
Merci Sébastien Léas, à tout à l'heure, après 19h.